Salut tout le monde, comment ça va? On est ravis de vous retrouver une semaine de plus pour ce NBA Week Pass. Et avant
Déjà le
de.
septième.
Ah, déjà le septième. Et avant de se lancer dans cette semaine NBA, presque une question traditionnelle désormais. Comment ça va, Simon?
En pleine forme. Je suis toujours pas réenrhumé.
Ça, c'est fort.
Et écoute, je touche du bois, je touche tout, mais voilà. Et toi, comment tu vas?
Moi ça va, mais c'est vrai que par rapport au rhume, désolé à ceux qu'on a fait trop flipper la dernière fois. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément plu à tout le monde, mais
Peut-être qu'on est des bons acteurs, Robin.
oui, peut-être
En
qu'on.
plus, t'as vu le sens du timing, c'est les Césars la veille. Nous, on se dit, bah oui, faisons un truc le lendemain. Du coup, on doit attendre maintenant un an pour avoir une statuette. Mais je
Ouais,
pense qu'on la mérite.
toi, enfin c'est moi, c'est j'aurais le second rôle et toi le principal, je pense là-dessus, vu que t'as
Ah, ok.
interprété le nez bouché.
Ouais,
T'as,
c'est vrai.
enfin ouais,
C'était pas
t'avais.
évident en plus.
Non, t'avais beaucoup de choses à faire. Mais ouais, t'as eu des petits highlights dans ta semaine, des trucs
Pas
sympas.
du tout.
Ok, top.
Semaine de très consciencieuse, très semaine de travail et tout, qui est passée à une vitesse qui est passée encore plus vite que la semaine dernière, je te jure.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on travaille sur une quotidienne, Robin. Je te le dis honnêtement, ou presque. Ça, voilà, mais c'est un plaisir, hein. C'est évidemment un plaisir.
Mais c'est là que c'est beau parce que la NBA, même en travaillant dans des espèces de quotidiennes, on a toujours plein de choses à dire,
Oui.
plein de choses magnifiques.
Et toi, ta semaine?
Moi, ma semaine, pareil, hein, pas mal, plutôt classique, plutôt
Ouais.
classique.
T'as bien mangé?
Ouais, il me semble, hein. Il me semble, en ce moment, on fait attention. Avant l'été, je pense qu'un peu comme pas mal de gens. Non. Okay. Mais oui, franchement, une semaine assez classique, assez sympa. Pareil, on revoit de plus en plus de basket et ça fait plaisir. Et il y a eu
J'ai
de
failli
la
aller
belle.
jouer l'autre jour, j'ai pas eu le temps, mais j'étais à deux doigts
D'aller
d'aller
sur un
jouer. Je pense
playground.
que je vais y aller ce week-end, je vais essayer.
Magnifique. J'ai lâché la quai enfin débloqué, on va pouvoir aller shooter. Ça va être magnifique. Et bah, n'empêche qu'il y a des gens bien plus
Oui,
sympas
il
que
y a
nous
des
à
news un peu
regarder.
plus importantes que le fait qu'on risque d'aller jouer ce week-end,
Il y
qu'on
a
va
des gens plus
essayer.
sympas à regarder sur un terrain de basket. Et notamment Jason Tatum, je crois.
Bah
Enfin!
oui, l'ami Jason Tatum qui est censé revenir ce soir, c'est ça?
Ce soir, contre les Mavs, c'est magnifique. Franchement,
Oh là là.
après 10 mois, tout le monde est choqué de la rapidité.
Ouais,
Il
bah
y a des gens qui ont peur pour lui, j'ai l'impression.
c'était au 3 ou 4e match du second tour des playoffs, donc au printemps dernier contre les Knicks. Il est dans un timing un peu Kobe-esque, comme
Ouais,
il a voulu.
dis-moi.
Il a Kobe, c'était 8, je crois, 8-9,
Ah
non?
ouais, à ce point-là?
Ah, il me semble.
Je sais pas
J'ai
bien,
un
mais
doute maintenant.
en tout cas pour lui, c'est 10 mois. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens flipper sur est-ce que c'est pas trop tôt? J'imagine que les Celtics font gaffe, mais c'est sûr que c'est une interrogation parce qu'on a quand même rarement vu ça. Mais au-delà de l'inquiétude, il y a de l'excitation de voir le match de ce soir contre Dallas.
Ouais, trop tôt. Après plusieurs choses. Déjà, il faut bien qu'il revienne à un moment ou à un autre. Donc, il y a toujours cette appréhension. Là, je trouve que, quitte à avoir ce. C'est pas si mal si tu as tes 7 semaines ou 2 de battement. Là, au moins, tu vois, les Celtics sont plutôt bien classés. La vraie question, c'est si les Celtics avaient fait une saison pourrave, est-ce qu'ils se seraient pas dit, Tatum au frigo, tu vois, toute l'année.
Je
Si là,
pense.
ils étaient, je sais pas, 6e, 9e, j'en sais rien. C'est vrai que le fait qu'ils soient second, là, je crois, à l'heure où on parle. Je crois
Deux
qu'ils
ou
sont
trois.
2 ou
Ouais,
3, mais je crois qu'ils sont
deuxième.
second, là.
Ouais,
On
ils
va. De
sont
toute
deuxième.
façon. Je crois qu'on va voir le classement plus
Oui,
tard.
un moment, on va le
On va
regarder.
vérifier. Mais voilà, effectivement, bah tu te dis, ça vaut peut-être le coup. Parce que si ça se passe, si là, au bout de 2-3 semaines, tu te rends compte, ok, feu vert, il peut y aller vraiment. Bah, tu sais
Et
que.
si les Celtics font un gros run grâce à ce retour, faudra pas oublier justement, comme tu dis, le travail fait par Jalen Brown et les autres pour les maintenir aussi haut dans la conférence et lui permettre ce retour. Parce que moi je suis d'accord avec toi, il serait jamais revenu s'ils avaient été nuls comme
Je
beaucoup de
pensais
monde
que bah,
l'envisageait.
tu fais saison blanche, quoi.
Ouais, clairement. Il y en a un qui a pas fait non plus saison blanche et qui a
C'est
fait
vrai.
ses débuts cette nuit. Pour le coup, on l'a vraiment vu. Trae Young
Hop.
qui a joué pardon 19 minutes avec les Wizards pour 12 points, il me semble. Une défaite, hein, il joue à Washington.
Oui.
Mais on l'a revu sur les parquets. Quelques actions
Ouais, écoute,
de
il y a une belle
clutch.
action. Il y a un truc fin de passe là, machin, changement de main, allez hop.
Ouais, même son
C'est une
premier
belle action.
panier,
Ouais.
c'est un layup assez stylé, très ionesque, j'ai envie de dire.
Pas sûr qu'on le revoie énormément.
Non.
Il y a un autre Gugus aussi qu'on a revu cette semaine, c'est Giannis.
Ouais, c'est
Vite
vrai.
fait. Mais effectivement, un peu. Moi, je me demandais presque, mais pourquoi en fait tu reviens? Et en plus, une semaine ou deux trop tard pour que ma hot take soit valable.
Ouais.
Donc j'étais vénère, j'étais
En
là,
plus,
genre,
c'est
mais.
pas par pote.
Voilà. En plus, et puis là, Milwaukee, enfin, je veux dire.
Ils sont sur 4 défaites de suite, donc le retour a pas forcément changé
Ouais.
grand-chose pour le
C'est
moment.
limite encore plus triste parce que malgré Giannis, maintenant, bah, il paume quand même. Voilà. D'autres news, Robin?
Oui, bien sûr, on peut parler de LeBron, qui cette nuit a battu un autre record de Kareem Abdul-Jabbar, le nombre de paniers marqués. Donc il avait évidemment dépassé son nombre de points, mais avec beaucoup plus de 3 points que Kareem Abdul-Jabbar. Maintenant, il n'y a même plus cette excuse. C'est lui qui a marqué le plus de paniers dans toute l'histoire de la NBA, au-dessus du patron du Skyhook.
Ouais,
Et
c'est.
ça va être dur d'aller le chercher, comme tous les autres records.
Ça commence à faire beaucoup pour LeBron et on va voir jusqu'où il peut pousser encore ses toutos avec voilà prochaine saison machin. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, ce serait marrant, faudrait voir un peu en détail, mais on le fera d'ailleurs à un moment, bah, sans doute à la fin de mois. Parce qu'il doit avoir aussi le nombre de paniers tentés, de 3 points. Enfin, tu vois, le volume fait qu'il va avoir un nombre de trucs à la fin, ça va être rigolo.
C'est clair. Bah, dans la discussion au niveau longévité. C'est intouchable de toute façon, donc c'est normal qu'il ait aussi beaucoup de records liés à ça, mais c'est un exploit considérable. Par contre, à l'Ouest, on ne sait pas bien s'il va aller loin cette année. Les gars, on en fait un apéro avec les Lakers. Surtout qu'il y a des petites équipes de l'Ouest qui se renforcent petit à petit. La semaine dernière, on vous glissait un Kyle Anderson chez les Wolves.
Ouais.
Cette semaine, on a Tyus Jones chez les Nuggets.
Meneur remplaçant.
C'est ça, ils n'en avaient pas vraiment. Après, on ne va pas se mentir, Tyus Jones, il avait une très grosse réputation en début de carrière, notamment chez les Grizzlies où on en parlait comme un des meneurs les plus propres de la ligue. Là, ça fait 2 saisons. Avec les Suns, ça allait encore, il y avait d'autres problèmes, mais ce n'était pas grandiose non plus.
On va dire que ce n'était pas lui. Par contre, Orlando, que ça n'avait pas marché, c'était plus surprenant parce que c'était vu au moment de son arrivée, c'était vu comme vraiment fit parfait a priori.
Et puis des pourcentages vraiment très crades, pareil. Il a joué un petit peu moins, mais c'était pas non plus grandiose. Il a joué avec Dallas aussi cette année.
Oui, il est coupé par Dallas justement.
Ouais, c'est ça. Donc on va voir si à Denver, et entouré de mecs comme Jokic, comme Jamal Murray, il retrouve un peu d'allant. Ça peut faire du bien peut-être en sortie.
Denver qui a intérêt à retrouver une vraie rotation, avoir un effectif un peu plus stable en blessure et tout. Je pense qu'il a un coup à jouer, Tyus Jones. À voir quand même s'il a un vrai tendu en playoff quand l'équipe sera au complet. On va voir. Denver, c'est quand même un peu flou là. Entre les blessés, là, il va falloir.
Ils n'ont pas encore réussi à trouver leur rythme.
Et la saison est bientôt finie.
Un autre meneur en manque d'adresse, désolé pour lui, mais qui a une seconde chance, c'est Killian Hayes.
Ah oui, deuxième contrat de 10 jours pour Killian chez les Kings.
C'est ça. Franchement, tant mieux, parce que c'est vrai que ces 10 premiers jours, on en avait parlé la semaine dernière, c'était pas passé excellemment, on va pas se le cacher. Mais on sait qu'il a du talent, on sait que cette saison en G-League, il avait des bons pourcentages, donc on espère que ça va retomber dedans.
Écoute,
pendant...
Il a 10 jours, donc a priori, il vaut 3 ou 4 matchs, il faudra voir le calendrier précis des Kings, pour se remontrer, pour en fait ne pas être oublié dans les cercles NBA, tout ça et tout. Et puis, ça va lui apprendre aussi à conduire un tank. C'est toujours ça de prix.
Ouais, c'est vrai. Avec l'état du monde en ce moment, ça peut servir.
Écoute.
Un autre Français, mais lui, qui s'est illustré de plus belle manière cette semaine, Victor Wembanyama.
Ouais.
Au-delà de ce match XXL, comme l'a écrit Hicham, face aux Pistons, 38 points, 16 rebonds, 5 contre, on est sur une semaine assez exceptionnelle.
Ouais.
Notamment
les Spurs,
les Spurs liés en fait, qu'on le montrerait pas maintenant à toutes les
semaines ou même un mois en fait. Là, on a carrément l'équipe du mois puisque ils ont fait une razzia. C'est-à-dire qu'il y a 4 awards donnés par conférence, coach du mois, rookie du mois, défenseur du mois et donc évidemment joueur du mois. Et ils ont fait un 4 sur 4. Wemby a fait, lui, il en a pris 2. Il fait pas de répit.
Non, défenseur et joueur.
Ouais, parce que rookie et coach, c'est compliqué quand même pour Wemby de les prendre. Mais du coup, c'est Dylan Harper et c'est l'ami, c'est Mitch Johnson.
Exactement.
Donc, d'où ce joli visuel parce que c'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça consacre le mois des Spurs. On parlait là du dernier match contre Détroit. Détroit qu'ils avaient déjà tapé à Détroit. Je crois qu'en gros, à part la défaite contre les Knicks.
Ouais.
Où il s'était apparu quand même un peu fatigué, puis il faut laisser aux Knicks dès le début en fanfare un peu. Ils se prennent un, Wemby l'avait dit d'ailleurs, ils se prennent un 20 quelque chose en début de match, qu'ils n'arrivent pas à
exactement entre le premier et le deuxième carton.
Rattraper,
les Spurs menaient et là il y a eu une énorme séquence des Knicks qui ont fait aussi un deuxième carton assez exceptionnel avec Michael Bridges de souvenir aussi qui était monté en régime.
Mais sinon les Spurs, vous avez suivi là ce mois-ci, ils sont passés un peu d'équipe sensation à machin et au fur et à mesure partout, que ce soit en France, aux États-Unis et tout, la discussion globale sur les Spurs commence à être est-ce qu'on n'est pas sur un vrai candidat, jusqu'où ils vont aller, ils ont l'air de valider sans doute une des 3 premières places de l'Ouest, donc candidat des finales de conf, ce qui serait quand même incroyable.
Et puis même pour revenir sur la semaine de Wemby, on a aussi vu l'investissement à Nanterre.
Il
a été un peu partout, mais surtout dans la raquette de Détroit visiblement où il a fait beaucoup de mal, notamment à Jalen Duren qui a pris
sur
des fautes rapidement.
Sur l'autre match, c'était pas forcément autant à son avantage, mais c'est vrai qu'hier, il a dominé assez nettement Duren, qui lui, quand même, s'inscrit. J'ai l'impression que des Wemby, il y a Wemby Holmgren, elle est établie, mais la Wemby Duren, rivalité.
Tu vois quelque chose?
Tu peux quand même imaginer que ce soit les meilleurs pivots de leur conf sur les 3-4 prochaines années, tu vois.
Ça peut se discuter.
Ça peut être
les
ça la projection,
Ouais, clairement.
puis beau duel quand même, tu vois. Durant, il est, je veux dire, Durant, il a pas peur non plus. Il sait qu'il va se faire deviner et tout, mais il y va, il a pas peur.
Si on en a d'autres en playoff, ça voudrait dire qu'on a eu des des post-season assez incroyables. On va jeter un œil au classement de la semaine. Pas d'immenses nouveautés. On sent que le play-in de l'Est, ça gagne pas mal de matchs en ce moment. Que ce soit Magic, ouais. Je crois que les Hawks aussi restent sur 5 victoires consécutives, c'est écrit juste là. Donc ça se rapproche un petit peu de Raptors et Sixers qui sont pas si safe juste devant. Ça va être intéressant à suivre dans la conférence Est.
La vraie question dans l'Est, on a l'impression que le top 4 est gravé dans la roche.
Sniper.
Ouais. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui.
Et que là-dedans, enfin pas dans le top 4 justement, mais dans ce qui suit, l'espèce de paquet, alors c'est pas tout à fait du ventre mou, mais le deuxième étage, quoi, le Raptors, Sixers, Magic.
De 5 à 10.
Ouais, faut se demander un peu, est-ce qu'il y a une équipe qui serait capable, non. On va, de couper une tête du top 4? A priori non, mais peut-être que se cache une, on verra. Même si pour les Raptors ça va un peu moins bien, les Sixers on voit qu'Embiid quand même, ça recommence un peu à être compliqué, à voir, mais il y a quand même une équipe qui fait le buzz, sans mauvais jeu de mots, que tout le monde fait et refait et n'arrête plus de faire. Mais les Hornets...
Ouais, 6 victoires consécutives.
Ouais, et puis des stats et c'est clairement l'équipe de la semaine, Robin.
Ouais.
Nos petits Charlotte Hornets, ils ont... Alors, tu me disais que tu avais des stats assez folles. Moi, je vais en retrouver aussi, mais je crois qu'ils ont gagné 6 victoires de suite, là.
6 victoires de suite avec plus de 15 points d'écart, ça n'avait pas été fait depuis les Warriors 2017-2018. Donc... C'est vrai que ça les pose assez haut.
Voilà. À voir si on en reparle ou pas. Petit Charlotte Hornets, petit teasing et tout. Mais
c'est pour
quand
ça
même...
que je me mouille pas encore trop.
Oui,
mais
oui, oui. vous nous voyez venir. Mais en attendant, le trophée de la semaine.
D'abord, on n'a pas montré le classement
news,
à l'Ouest.
Pardon. Ah oui, bien sûr.
Le classement à l'Ouest, ouais, qui pour le coup, c'est les Suns là qui restent sur 4 défaites sur Sidana. Ils ont perdu contre les Bulls cette nuit, donc elle est pas forcément belle. C'est un peu l'inverse, le play-in de l'Ouest est en train de stagner, de laisser partir un peu les 6 devant, même si les Lakers sont pas non plus...
Les Suns ont ralenti un peu, et parce qu'on les sentait presque aller chasser les Lakers, et puis là il y a eu notamment d'ailleurs une contre vous là hier, qui est pas belle, une défaite. Hein. Bah, on voit aussi que Minnesota est quand même passé podium.
Ouais,
c'est le gros changement, le Minnesota est venu à force d'enchaîner les victoires, là, 5 de suite,
8 sur les dernières.
Voilà. Houston qui va bien en ce moment, enfin ça va, y a pas, c'est, voilà, mais qui a un rythme moins intense que celui de Minnesota. Et puis Denver du coup se retrouve 5e, même si comme vous le voyez c'est extrêmement serré sous les Spurs, là, et même tu peux presque aller jouer les Lakers, hein, c'est pas si loin en vrai les Lakers,
non, clairement.
S'ils font un petit run, voilà. Donc ça va être très intéressant à suivre parce que les places, on le sait, pour l'avantage du terrain, pour aussi les match-up au premier tour. Et puis après, est-ce que tu es dans la partie de tableau d'Oklahoma ou pas, nanana, ça va être cool, ça.
Ça va être super sympa. Ce qui était moins cool, c'est notre image de la semaine.
Oui. Hop là.
Là, il n'était pas cool du tout,
l'ami
Nicolas.
Non, pas content, l'ami Nicolas. On avait envie de revenir là-dessus comme image de la semaine, même si ça date un peu. Parce que quand même, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, vous voyez, il a bien pété un plomb,
ouais.
Mais il y avait de quoi.
Il y avait de quoi, même on en a parlé parce que c'est suite à une faute de Lou Dort.
Ouais, crocheté.
Oui, une faute totalement antisportive, que même Lou Dort a reconnu, il a dit qu'il avait qu'il avait dépassé les limites.
Ouais.
Donc il a fait son mea culpa plus tard dans la semaine. Mais c'est sûr que cette image de Jokic aussi énervé, ça arrive. Mais là, quand il te regarde comme ça, moi j'ai pas envie d'être Jalen Williams.
Non, tu sens l'expérience des embrouilles avec les frères.
Exactement.
Ah, ils ont dû parfois, je pense qu'il y a des jours, maman Jokic, là, elle a dû les empêcher de s'entretuer, tu vois.
C'est très probable.
Les parties de Mario Kart où ça triche un peu, là.
Ah oui, quand ils donnent une pomme noisette de plus à un des
pas,
frères.
Non, après, ce qui est intéressant, c'est tout le discours. Par exemple, que Jokic, lui, j'ai adoré sa déclaration du genre, ouais, voilà, mais c'était nécessaire. Mon intervention était nécessaire. Genre, en gros, il y a une ligne rouge, il l'a franchi, ça c'est non. Alors qu'il accepte quand même un peu qu'on le chamaille physiquement et tout Jokic, mais là il a vraiment pas aimé. Il y a aussi quand même une certaine réputation que Dort ou un passif. Parce que Daigneault par contre n'a pas du tout choisi de... Comment dire ? Lui il a fait bloc en défendant son joueur sur le côté. Ok, donc si un croche-pied maintenant, parce qu'on rappelle que Dort a été expulsé.
Ouais.
Daigneault a joué le côté. Ah d'accord, donc maintenant si on fait ça, et par exemple si on se retrouve en playoff, si un mec a un geste antisportif ou gêne, d'accord, mais c'est expulsion pour tout le monde. Sous-entendu, c'est pas parce que Dort a un passif, c'est donc un peu jurisprudence, quoi, si tu veux.
Ok, mais j'avais pas vu cette déclaration.
Ouais, il a tenu une ligne un peu, mais c'était tout de suite après. Dort, lui, par contre, a été assez classe dans The Athletic. Il a expliqué qu'en gros, lui, il estime que ce geste-là est trop. mais que c'est quand même c'est son travail, c'est-à-dire qu'il a un travail difficile de toujours défendre le meilleur joueur de meilleur joueur adverse, de jouer physique sans franchir cette fameuse ligne rouge. C'est vrai qu'on peut le reconnaître, comment dire, c'est pas mal de sa part et c'est aussi assez vrai quand même. Ça doit pas être si évident d'être tout le temps sous la limite et de pas avoir le geste en trop, le malin. Et là, il a reconnu que le croche-patte était complètement débile, quoi.
Et dangereux. Que ce soit cette image de la bagarre ou la déclaration de Daigneault, ça me fait juste dire que ces deux équipes qui peuvent potentiellement se voir en play-off, qui l'ont bien en conscience et qui préparent un peu le terrain à leur manière d'une bonne série en 7 au mois de mai, quoi.
Bah, c'est cool pour nous. Il y a un bif un peu Oklahoma San Antonio, on le sait. Wemby, Holmgren et puis même de manière générale, les Spurs, ils ont tapé plusieurs fois. Donc, s'ils se retrouvent en play-off, voilà. Mais là, on sait maintenant aussi qu'OKC Denver, c'est cool, quoi. Ça va être content de se retrouver, ça va chauffer et tout. Ça annonce quand même des play-offs de rêve. Hein.
Ouais, franchement. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de remonter un petit peu.
Ouais, franchement.
Il y a quelques semaines, j'avais dit que je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'équipes prêtes. Ça commence à se mettre en
route. Entendu,
ouais, j'ai l'impression.
Peut-être qu'ils l'ont pris un peu personnellement.
Sans aucune prétention de ma part d'avoir un impact là-dessus. Pour la stat de la semaine,
oui.
Je t'aide un peu, mais on va rester à OKC. Okay. La stat de la semaine, c'est 126. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence?
Est-ce que c'est des minutes cumulées? Non. Est-ce que c'est... Je vais essayer de rendre ça pas trop long et d'être bon. Alors, c'est à OKC 126. C'est un nombre de jours?
Non.
Ok, c'est des centimètres?
Non.
Non, c'est des kilos?
Non.
C'est une salle de basket?
Je vais y aller.
Merci Robin.
C'est le record, en fait, qui pour l'instant appartient à Will Chamberlain de matchs consécutifs à plus de 20 points, qui est à 126.
Ah, mais oui, je l'ai vu passer.
Et Shai Gilgeous-Alexander en est à 124.
Pardon, je rame.
Bien sûr, il en est à 124, Shai. J'ai noté, il en a déjà, la dernière fois qu'il n'avait pas mis 20 points.
Donc 126, c'est le record de Wilt.
Ouais.
C'est 126 matchs NBA en collant 20 points.
Ouais, de suite. Okay. Et c'est pour prévenir un peu nos éditeurs que ça risque de se produire cette semaine. La dernière fois que Shai n'en avait pas mis 20, c'était 18 points face aux Spurs le 30 octobre 2024. Et cette semaine, il joue les Warriors, les Nuggets, puis les Celtics. Donc le record pourrait être dans la nuit de jeudi prochain face aux Celtics. Il a déjà le record du nombre de matchs consécutifs à plus de 20 points en déplacement. C'est très technique. Mais pour avoir le record global, il faut assurer ces trois derniers matchs et c'est quand même un record assez historique. On parle souvent des records de Wilt impossibles à les toucher. Il y en a un qui devrait tomber cette semaine.
Ouais, Jordan ne doit pas être très loin non plus dans ces histoires de matchs à 20 points consécutifs, il me semble. Et LeBron avait une série de matchs à plus de 10 points, tu te rappelles,
ouais,
là, il n'y a pas longtemps. Et où il avait...
Ouais.
Non, mais c'est vrai que Shai s'inscrit dans une sorte de Mont Rushmore des scoreurs réguliers à beaucoup de points, 30 et tout. De manière assez... Là, en deux ans, il a fait un espèce de boom dans la hiérarchie de ça.
Je crois que c'est Rick Carlisle qui a eu une déclat cette semaine en disant Bénédicte Mathurin, quand il est sorti du ventre de sa mère, il avait déjà marqué 20 points. C'est un peu vrai pour Mathurin, mais ça l'est encore plus pour Shai Gilgeous-Alexander.
Carrément.
Voilà, c'était ma petite stat. Je ne sais pas si tu l'aimes bien.
Ah si, si, très bien, très bien. Non, ça me laisse assez songeur sur l'impact là. Et je repense notamment à cette vidéo du top 21 qu'on avait fait avec Alex, où moi j'avais un peu de mal à classer Shai tout de suite parce que justement j'ai besoin de voir. Voilà, après, pourtant, tu vois, c'est il y a à peine 2-3 mois et tout. J'attends de voir ses playoffs quand même.
Ouais,
ça va être vrai qu'un back. Shai pourrait devenir. Bon, on se projette. Si Oklahoma regagne, s'il recolle du. Tu vois, il tourne à 30 points de moyenne en playoffs. Ce qui me manque peut-être, voilà, la réflexion là-dessus. Il y a pas tant que ça de match où d'un coup t'as un 57 points et il en fout partout.
Ouais.
C'est un peu la même chose que Durant quelque part dans le domaine. Durant est très régulier à des très hauts. Mais Durant, quand tu regardes, il a pas tapé tant que ça. Je crois même qu'il. Je sais même pas s'il a mis 60 points une fois. Durant, je suis pas sûr. Et même les 50 et tout, c'est pas si. Shai est un peu là-dedans aussi. C'est plus régulièrement 30.
C'est sûr. Après, est-ce que son équipe en a souvent besoin? Au début, il y avait beaucoup de blowouts où il jouait 25 minutes. Je crois qu'au début de la saison, il y avait la stat folle du nombre de quatrième cartons qu'il ne jouait pas.
Ce serait un peu l'anti-Carmelo.
Franchement, il y a ça. Mais c'est vrai que récemment, son équipe va un peu moins bien. Et il a été blessé, bien sûr, mais il n'a pas été ce relais qui peut en mettre 40-50.
Oui, il fait pas la course à aller foutre 60 points contre les Bobcats, ça c'est sûr. Mais
ça serait compliqué contre les Bobcats.
Mais tu vois. Ça veut dire aussi, j'aimerais bien un match serré là, avec un Shai un peu chaud, et où il se sent obligé, un gros duel contre, faudrait voir ce que réserve la fin de la saison, mais contre Denver ou contre Houston, tu vois, un vrai bon match, et où Shai est obligé de jouer tout le match et de voir si ça pourrait monter, je pense là. C'est pas possible qu'on en reparlera d'ici la fin de saison, peut-être qu'il va claquer un 50.
Ça pourrait être l'objet d'une note take, et peut-être qu'une de ses grosses affiches sera contre nos vainqueurs du trophée de la semaine.
Allez. Vous l'avez deviné, vous l'avez compris. On
Alors,
les évoquait. Enfin, non, peut-être pas. Ouais.
non, mais déjà, on va parler du nom. 2026, c'est mon
Ah oui, c'est
année.
vrai.
Vraiment, la phrase spéciale du nouvel an. Et ben, il y a
Ouais.
une équipe qui l'a respectée mieux que les autres. En effet, on en a parlé un tout petit peu.
Bah oui,
Et
mais
là, c'est des applaudissements sincères pour une fois dans nos trophées.
Ouais, ce trophée est assez presque au premier degré de notre
Ouais.
part. Mais on en parlait, alors c'était l'équipe de la semaine, mais on a décidé carrément d'en faire un trophée parce que quand même, les Hornets, là, c'est assez dingo. C'est-à-dire que 6 victoires de suite, mais pas n'importe qui contre qui, pas n'importe comment, etc. Je te laisse
Bah,
un peu expliquer tout ça.
c'est ça, là j'ai déjà donné de la stat des 6 victoires de suite à plus de 15 points qui n'avaient pas été faites depuis les Warriors de 2017-2018. Mais au-delà de ça, en effet, depuis la nouvelle année, on est quand même avec la cinquième meilleure défense de NBA, la phrase est folle, la meilleure attaque, tout simplement, un net rating de 12 depuis le 1er janvier, donc ça veut dire qu'ils gagnent en moyenne leur match de 12 points. La deuxième équipe depuis le 1er janvier avec le plus haut net rating, ce sont les Pistons à 9,3.
C'est la meilleure équipe NBA en gros
Il y a
en 2026 là.
C'est ça, mais il y a
Pour...
2,7 points d'écart,
Ouais.
c'est énorme de moyenne. Et tout simplement, c'est ça, ils étaient en 11 victoires pour 23 défaites, maintenant ils sont en 32 victoires pour 31 défaites.
Ouais.
On montrait le classement tout à l'heure, ils peuvent vraiment briguer une place qualificative directe pour les playoffs à l'Est. Et si on nous avait dit ça mi-décembre, je pense qu'on n'y aurait pas cru.
Bah, la dynamique est folle, tu disais 11-23 et là on est à 32-31
Ouais.
ou 30.
C'est ça, 21-8 du coup.
J'avais d'autres chiffres pour te compléter. L'an dernier, j'ai vu ça sur NBA Extra, le graphique. L'an dernier, on parle d'offensive rating sur la saison 2024-25. Ils avaient le 29e, donc l'avant-dernier de la ligue, à 107. Qui m'a quand même surpris, mais ils étaient vraiment avant-dernière attaque dans les stats avancées. Cette année, au global, donc la 2025-26, tu prends tous les matchs, là on doit être à 60 matchs et tout, ils sont 7e à 118-4. Mais ce qui est très intéressant, d'où le. 2026, c'est mon année. Depuis le 12 décembre, donc bon, la fin d'année, vraiment la fin d'année 2025, depuis le 12 décembre, pardon, 2025 à maintenant, Robin, ils sont premiers. C'est le meilleur offensive rating de NBA avec 121 points par match. Ils en ont fou... Et puis ils ont une capacité à créer un peu comme ça le chaos, je trouve, à jouer de manière un peu frénétique et à créer la confusion dans la défense adverse. L'apport de Knoppel est majeur parce qu'il a déjà, un peu comme Curry, c'est pas un shooter statique. Il l'utilise beaucoup en déplacement, il l'utilise même parfois au dunker spot ou en poseur d'écran quand il remonte. Et c'est le bordel parce que ça met le défenseur dans une situation où tout de suite en temps réel tu dois dire est-ce que je colle Knuppel, mais du coup bah, je viens pas aider sur le pick and roll, du coup il y a un dunk pour le pivot. Du coup. LaMelo Ball est quand même très bon pour lire des situations. Brandon Miller est devenu assez collectif là-dedans, ils sont bien coachés. Je vous invite à voir. Parce que j'ai vu aussi ça, c'est très bien fait hier soir. D'ailleurs, je l'ai vu la vidéo du Dreamcast Show, ce qui doit durer un quart d'heure, 20 minutes, qui est vraiment très bien faite sur la tactique de voilà, bah, comment Charles Lee fait jouer ses Hornets. C'est assez passionnant et tu vois que pour les coachs, le basket, c'est un peu un joueur d'échecs, un jeu d'échecs.
Bien sûr.
Ils ont vraiment un coup d'avance sur le coup d'avance de comment on défend plusieurs choses en NBA. Et pour l'instant, ils ne se sont pas fait rattraper dans la partie d'échecs. Ils ont le contrôle, ce qui explique les victoires, ce qui explique qu'il va quand même sans doute en avoir quelques-unes. Par contre, j'aimerais presque bien qu'ils aillent en playoff sur cette dynamique pour justement avoir une vraie partie d'échecs en 7 matchs contre un gros coach et voir tout de
Qu'il y a le
suite
temps
qu'est-ce
de
qui se passe.
préparer plus les matchs,
Voilà,
etc.
voilà.
Mais c'est vrai que tu parlais du pick and roll et des choses incroyables. L'autre jour, j'ai vu un pick and roll, Moussa Diabaté balle en main, LaMelo Ball qui pose un écran
Oui.
et Diabaté il va finir quoi.
Ouais. La grosse différence. Alors, c'est l'ajout, les deux choses, je pense, à retenir pour finir cette séquence Hornets tactiquement. L'ajout de Knuppel et qui est utilisé plutôt comme un. Avec sa gravité, un peu comme Steph Curry, finalement, quelque part, à se déplacer de partout et à poser des écrans et tout. Et LaMelo joue beaucoup plus off-ball aussi. LaMelo est utilisé comme poseur d'écran. Il est utilisé aussi pour sa capacité à ce qu'on appelle le short roll, tu sais, où tu
Ouais,
retrouves
bien sûr.
le 4 contre 3 qui est un peu normalement le rôle du poste 4. Bah en fait, quand tu arrives à faire en sorte que ce soit LaMelo qui pose l'écran, qui se retrouve tout de suite avec une petite passe, avec tout le jeu face à lui et un avantage numérique, il est exceptionnel. Enfin,
Il est incroyable, ça, il fait
là-dessus,
une
tu te rends compte.
différence exceptionnelle dans l'attaque des Hornets, c'est
Et faut
toujours un
avouer
mec.
qu'il est toujours aussi un peu délirant. La fameuse blague, il joue comme s'il avait, il joue avec des, tu sais,
Des
des
AirPods.
AirPods. Ça me fera toujours mourir de rire parce que c'est exactement ça.
C'est parfait.
Mais tu sais que là, autant il a peut-être toujours des AirPods, mais il est passé de, je sais pas, NBA, Young Thug, je sais pas quoi dans les oreilles, à un truc un peu
Il n'y a plus de
plus.
réduction de bruit.
Ouais, et puis il a peut-être changé un peu de playlist, il est peut-être sur un truc un peu plus réfléchi musicalement. Franchement, il joue bien là, LaMelo.
Il est très fort. Il est très fort et il fait du bien à ses Hornets. Je sais pas qui aurait été l'All-Star des Hornets si on avait commencé la saison un peu plus tôt. Ça peut être lui, ça peut être Maple, ça peut être Miller qui est incroyable en ce moment. En tout cas, il se régale.
Et Charles Lee, c'est en train de se faire un nom là dans les coachs NBA assez rapidement.
C'est ça. En tout cas, moi, le trophée de la semaine, le nom, pardon,
Oui.
2026, c'est mon année, m'a inspiré. je sais pas si on appelle ça une petite chronique ou quelque chose comme ça, ce qu'on ne souhaite pas aux Hornets, mais des one hit wonder, comme on dirait dans le sport.
Ok.
Donc des gars qui ont eu une année d'excellence et qui sont parfois un peu retombés beaucoup plus bas par la suite. J'ai quatre exemples, je sais pas si je vais tous les faire, mais qui sont quand même marrants, je trouve. Premier que je te présente, c'est Brady Anderson. Je t'ai mis
D'accord.
l'accent.
Quelle discipline?
Du baseball.
D'accord.
Il a fait 15 saisons dans la ligue de baseball, la
MLB,
MLB, bien sûr.
Major League Baseball.
Et en moyenne, il tapait 14 home runs par an.
Ok, ce qui est pas. Ouais.
Son meilleur score, hormis la
Ouais.
saison incroyable, c'est 24.
Ouais.
Et en 1996, avec les Baltimore Orioles,
C'est le petit oiseau, je sais plus comment on dit en français, le petit logo, petit oiseau casquette orange là.
il en a envoyé 50.
Ouais, donc n'importe quoi.
Donc, plus du double de sa deuxième meilleure saison en carrière. Et si tu l'enlèves, si t'enlèves cette saison, j'ai compté, ça fait 11 home runs de moyenne par an, si
Ouais.
t'enlèves juste cette
Ouais.
saison. Mais cette saison, il en a envoyé
Il en a
50.
mis 4 fois plus que d'habitude, quoi. Ça me fait
Exactement.
un peu penser, mais peut-être qu'il a attendu un heureux événement. C'est un peu, ça me fait penser au Fred Van Vliet papa, tu sais, et qui après a confirmé, mais il y avait un côté comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Le deuxième exemple que je te donne, j'ai été un peu dur avec lui parce que c'est un bon pilote, évidemment, qui avait une grosse carrière d'abord, mais qui m'a fait beaucoup. Pardon, j'ai un peu bégayé. Mais c'était Jenson Button. Oui, en fait, on peut pas le montrer.
Ah bah oui.
c'est Jenson Button. En fait, c'était, comme je disais, un bon pilote, mais il avait la troisième plus longue attente de l'histoire de la Formule 1 avant de décrocher un podium, et la quatrième plus longue attente avant de décrocher une victoire. Il s'était fait dominer quand même par quelques coéquipiers comme Fisichella Montoya, qui étaient des bons noms, mais pas non plus
Ouais.
ceux dont on se rappelle le plus. Mais en fait, en 2008, il est chez Honda, et Honda décide d'arrêter, et ils se font racheter au dernier moment par un des ingénieurs, Ross Brawn, qui était déjà au sein de l'écurie pour faire Brawn Grand Prix F1.
Ouais.
Une autre écurie, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent. Notamment, Button, cette saison-là, accepte de baisser de 80% son salaire.
Ouais, quand même.
Ouais, mais pour rester en Formule 1, quoi. Sauf que
Oui.
c'est un ingénieur, Ross Brawn, et qui trouve quelque chose. C'est une année où il y a des changements technologiques dans
Il
la
trouve
Formule
une faille dans la matrice.
1. Exactement. Notamment, il y a plusieurs choses, mais notamment le double diffuseur, je l'ai écrit, pour améliorer le passage du flux d'air sous le fond plat de la voiture.
D'accord, je
Et
vois très bien. Je
mais,
l'ai.
non mais je le dis pour les fans de F1 qui nous
Ah, le
suivent.
double diffuseur.
Oui, forcément. Mais sauf que du coup, en fait, rien que grâce à ce changement et peut-être d'autres, je
Ouais.
regardais pas tous les Grands Prix en 2009, au début d'année, ils ont vraiment une largement meilleure voiture que toute la concurrence, qui
Ouais.
après s'adapte et les rattrape en cours de saison. Mais lui, il prend tellement d'avance qu'il devient champion du monde, alors qu'il avait vraiment très peu de victoires en Formule 1
Il
avant
a
ça.
fini champion du
Il a
monde?
fini champion du monde 2009
Ah, je
devant
m'étais pas du tout. Pour cette
Jenson
période où j'étais
Button.
plus du tout à regarder. Ah, ok.
Et ce qui est marrant, c'est que Brawn Grand Prix, du coup, c'est la seule saison d'existence de l'histoire de cette écurie, parce qu'après ils se font racheter par
Ah ouais,
Mercedes
c'est du
parce qu'ils n'avaient
One
pas
Hit
de team.
Wonder
Donc
plus plus plus
c'est
là quand
One Hit
même.
Wonder de Brawn Grand Prix et
Ouais.
Button qui le montre bien.
D'accord.
Bon, le troisième exemple, je te le donne plus rapidement.
Ouais.
Tu te souviens de Salva Ballesta dans le foot?
Non, là je l'ai pas
Un
comme ça.
attaquant qui joue en Liga et qui en 99-2000 a fini Pichichi avec 27 buts, alors
Il
que
jouait où lui?
à
À la
Santander.
Santander.
Alors que y en a une autre à 18, une
Ouais.
autre à 12 dans sa longue carrière, enfin déjà c'est beaucoup moins, et sinon le maximum c'est 6 sur sa quatrième meilleure saison en
Ouais,
carrière, et il a mis que 6 buts, donc il en a mis une à 12, une à 18, mais une à 27 où il a fini Pichichi de la Liga, quoi, donc
Non, foot,
meilleure ligue
ok.
du monde.
Moi, One Hit Wonder, j'ai aussi la notion de mec que tu connais parce que tu le vois jouer régulièrement, mais qui sur un tournoi en équipe nationale, moi j'aime bien ça aussi, devient incroyable.
Clairement.
On peut penser, bah il y avait pour les plus anciens, mais il y a Milan Baroš qui fait un euro, je crois, à un moment où tu
République
dis,
tchèque.
ouais, tu dis, ah, futur miracle, attends, bon attaquant Milan Baroš, mais pas comme ça. Et puis, il y a effectivement, en termes de météorites, moi j'ai un nom encore plus pour les anciens, mais rappelez-vous d'Ibrahim Ba.
Moi, je connais le nom.
Mais qui n'avait pas été sélectionné à la Coupe du Monde 98 et tout, mais qui arrive comme ça où tu te dis. D'ailleurs, il finit au Milan AC, t'as l'impression que tu vas avoir un futur craquito d'Europe et tout, et voilà. Et puis peut-être, mais c'est plus récent, mais il se trouve que je le vois et que j'ai un trou de mémoire sur son nom, donc c'est complètement. Je ne sais plus, mais il y avait pendant. Quand la Russie est super fort à un euro, et après
Ouais.
il confirme un peu, mais c'est pas. Et tu sais, il est
Archavine.
Arshavin.
Archavine.
Arshavin, il est bon, hein, il est bon Arsenal et tout, mais sur un euro, t'as l'impression que c'est Zidane fois Cruyff fois c'est n'importe quoi. Voilà.
Ça n'a pas eu cette carrière. Et le dernier exemple que je te fais rapidement, parce que je l'aime bien, c'est Aslan Karatsev, qui est un gars dans le tennis, parce que je suis obligé de parler de tennis. Il était 253e mondial avant le Covid, parce qu'on est à cette période-là,
D'accord.
alors qu'il avait déjà 27 ans,
Ouais, donc a
26 ans,
priori,
pardon.
carrière assez
C'est
moyennasse.
ça. Mais à la fin de 2020, sur les quelques petits tournois, il monte jusqu'à la 111e place mondiale, donc il y a quand même du progrès. Sauf que là, il y a un Open Australie où il sort des qualifs. Et deuxième tour, il tape son adversaire 6-0, 6-1, 6-0. Et derrière, il bat Schwartzmann, Dimitrov, Ojaliassim, qui étaient tous des top 15. Et il perd en demi-finale contre Djokovic. La même année,
Ok.
à Belgrade, sur terre battue, tournoi Djokovic, il le bat. Il
Ah ouais.
fait, ouais, non, mais il fait une saison extraordinaire. Il gagne Dubaï, qui est quand même un ATP
Ouais, donc c'est
500.
vraiment son année, quoi.
Il monte 14e mondial. Et derrière,
Ouais,
il
quatorzième.
ouais, quand même. Et derrière, il redescend complètement. Il fait une demi-finale à Madrid en Masters 1000 2 ans plus tard. Donc il revient un peu dans les 50 à un moment. Mais maintenant, il est 900e mondial. Et le clou du spectacle, c'est que là, le dernier match qu'il a joué plus récemment, il a
Ouais.
perdu contre Sina, un Italien de
Ouais.
17 ans, 6-0, 6-3.
Ouais.
Il est
Ouais.
900 mondial.
Ouais,
Donc.
il est retombé dans les méandres. Juste pour rebondir, il n'y avait pas Nadal une année à Roland-Garros, il n'y a pas un Suédois
Robin
qui
Söderling.
Cédric, qui est un peu, c'est pas un one in wonder, mais
Non.
c'est pas non plus, enfin il y a une espèce de percée dans sa carrière où il fait 2-3 finales de Roland, c'est
C'est
ça?
ça, en fait, on l'avait pas vu beaucoup avant, mais à
Ouais.
partir du moment où il fait ça, il fait finale de Roland l'année d'après, en effet. Il reste quand même dans le top 10 mondial pendant bien 3 ans, et après, malheureusement, je
Ouais.
crois qu'il
Et
a
après.
une mononucléose ou
Ah ok.
ce genre de maladie qui met un peu fin
Ouais,
à sa
tennis.
carrière
Ouais.
assez vite.
Mais je me rappelle qu'il y
Mais.
a un côté sensationnel de le voir débarquer un peu de nulle part, effectivement, à Roland une année. Ce qui est déjà il y a genre 15 ans, une connerie comme ça, parce que j'ai l'impression que c'était.
2008, non 2009,
Ouais, même plus. Oh
2009,
là là, ouais,
c'est
18
2000,
ans.
je crois que c'est 2009
Ok.
qu'il tape Nadal.
Très bien.
Donc voilà, c'était mon petit exposé sur les One Hit Wonder, en espérant que ça arrive pas au Hornet et que ce n'est que le début de la progression.
Tu
Pardon.
leur as apporté la poisse, ça y est, c'est fait, c'est fini.
Parce que sinon, on en serait tous très tristes, comme notre grand débat
Oui.
du jour. Alors, March Sadness, pourquoi on a appelé ça comme ça, Simon?
Parce que, vous le savez sans doute, en basket universitaire, la NCAA, on parle au mois de mars de la March Madness, qui est la frénésie, on va dire, autour du tournoi où bah, y a tout le monde là, qui s'est qualifié, et puis y a, avec toutes les conférences qu'on leur tournoi et tout. Donc, et comme tous les matchs se jouent à élimination directe, c'est un peu la folie.
Évidemment.
Et que tous les jours, potentiellement, tu peux avoir des favoris qui tombent, mais aussi la petite équipe du. Et puis tout le monde joue le jeu, le grand jeu des brackets, c'est une tradition vraiment au
Bien
début de la
sûr.
NCAA, on le sait. Et nous, esprit espiègle que nous sommes, on a décidé de changer une lettre et de parler de March Sadness, et parce que le M c'est le S, ou le S c'est le M, je ne sais plus.
Bien sûr.
Mais du coup, March Sadness, alors peut-être pas au sens littéral de la tristesse de mars, du mois de mars et des trucs les plus tristes, mais plutôt de ce qui nous aurait chagriné. De ce qui nous aurait contrarié, moi je le voyais plus en opposition à donc la frénésie de la March Madness comme quelque chose d'un peu de bah voilà l'énergie opposée quoi.
Exactement, et aussi pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on a un peu jugé, mais comme tout le monde le sait, que le mois de mars en NBA, souvent il y a un peu moins de choses qui se passent, c'est un
Ouais.
peu triste, tout le monde attend juste avril, la fin de saison régulière pour avoir le classement, le début des playoffs, et du coup le mois de mars, je ressens un peu le mois triste.
Oui.
Là il y a la frénésie en NCAA, mais en NBA, c'est
Non, puis pour être
plutôt
transparent,
calme
moi
quoi.
j'avais proposé sinon à Robin de, à cause de Mars, de classer les barres chocolatées.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et il m'a dit, écoute, Simon,
Les
voilà.
glaces seraient trop hautes
Ou les
dans
glaces.
la tier list. Non, les glaces Mars, tu disais
Ouais,
là-bas.
là, en glace, oui, en glace dérivée des barres chocolatées, tu mets
Exactement.
la Mars.
Je sais pas, c'est juste pour.
Après, on aurait pu faire les dieux grecs aussi, les planètes, enfin vous voyez. Mais on a décidé donc de faire la March Sadness. Et
Voilà.
là-dessus, on a distingué, ça se dit pas distingué, on a dégagé, pardon, quelques petites questions.
Quelques
On va avoir des
catégories.
micro-questions autour de cette notion de March Sadness. Robin, je me permets de commencer par cette
Avec
question.
plaisir.
Si tu devais te rappeler un transfert qui t'a un peu fait mal au cœur, disons.
Oui, parce que je sais pas si c'est clair, je me permets, mais c'est,
Oui.
on va se poser des questions liées au basket
Ah
qui,
oui.
du coup, nous dégagent dans cet état de sadness. Oui, le transfert qui, bah,
Transfert un peu crève-cœur que t'as.
j'ai pas été le chercher très très loin,
Ouais.
mais le transfert d'Isaiah Thomas des Celtics, juste après ses playoffs, juste après le décès de sa sœur, il donne tout pour le maillot, évidemment, c'est un gars d'1m75 qui devient un des meilleurs joueurs de la ligue, l'histoire elle est extraordinaire, il saigne vert. Il se fait dégager à Cleveland contre Kyrie Irving.
Ah, l'image où il y a Avery Bradley, je crois, à côté de lui,
Ah ouais.
la détresse absolue.
Et en fait, c'est tout ce qui en découle. Enfin, déjà, on sentait qu'il y avait une tristesse infinie de quitter Boston, de quitter ce public. C'était tellement devenu limite le joueur le plus représentatif de sa franchise en
Ah
NBA, presque à
oui.
ce moment-là.
Ah, ouais, il y a un truc.
Presque,
Ouais, non, si,
franchement.
c'est fou. C'est vrai que l'Isaiah Thomas Celtic, c'est fou.
Et là, le problème des hanches, et on le revoit plus jamais à un niveau même bon, slash correct, quoi. Et c'est
Non, il y a
tout ce que
ça.
je.
Et puis, en fait, quelque part aussi, que ce transfert a. Ça a pas vraiment. y a une excitation, pardon, quelque part quand même pour les Celtics, parce que c'est Kyrie la contrepartie.
Ouais.
Oui, mais c'est Kyrie. Et en fait, Kyrie, alors il y a des débuts, mais très vite, Kyrie, ça... C'est vraiment regrettable qu'ils aient fait ça, qu'ils aient perdu l'osmose, qu'ils avaient l'amour qu'avait le public de Boston pour Isaiah Thomas. Je pense qu'ils auraient bien aimé le redonner à Kyrie, et c'est aussi pour ça que c'est vite parti en vinaigre.
Clairement.
Parce que Kyrie, non, ça s'est pas bien passé. Et je trouve surtout que ça a consolidé le côté Danny Ainge n'a pas de cœur.
Ah oui, clairement.
Mais bah, vraiment, hein, moi, c'est ce que je retiens de ça. C'est vraiment, c'est le genre de trade où tu sais, un peu comme le Doncic Harrison. Là, on va pas en parler tout, parce qu'on va pas remettre une pièce tout le temps dans cette machine, dans ce jukebox. Mais je trouve que tu as des transferts très liés au GM, et le Isaiah Thomas par des Celtics, pour tout le monde, je pense, dans la community, Danny c'est Hedge. Mais Danny Hedge, Game of Thrones, quoi.
Ouais, vraiment. Et c'est un Lannister, hein, vraiment. Ouais, il y a pas de
Machiavel, quoi.
Toi, tu as un transfert?
Ouais, mais un peu moins, un peu ancien. Bah Weber qui part des Kings aux Sixers, parce que à la fois Weber part des Kings et que c'est la fin de ces grands Kings, c'est aussi la fin quelque part du grand Weber. Nous on le voit aux Kings, il sera plus jamais le même, il s'est flingué les genoux. Mais t'as quand même un petit truc, tu dis ah, Weber Iverson à l'Est, il y avait Iguodala de mémoire dans l'équipe là, Samuel D'Alembert à ce moment-là, Kyle Korver, parce que la valeur de Weber est en basse. Ils le transfèrent en gros contre leur ailier fort titulaire, je crois que c'est Kenny Thomas et un autre truc. Donc les Sixers gardent leur truc, Weber vient se greffer. C'est pas terrible. Le Weber Iverson Sixers, c'est vraiment pas terrible.
Ah, ça a pas trop marché. Ouais.
Non, puis en plus ça, comment dire, les deux devenaient un peu une version fainéante, c'est-à-dire qu'en fait ils faisaient du McBeebe, enfin ils faisaient du main à main, à se chercher, à prendre des longs de points, et le jeu stagnait en demi-terrain, c'était pas beau en plus et tout. Et voilà. Et mine de rien, moi j'ai quand même notamment peut-être parce que je parlais des Sixers et tout, mais quand Iverson part des Sixers, je trouve qu'il y a quand même un côté aussi assez genre mais pourquoi, quoi.
Il y a un truc qui se brise même dans sa carrière, il y a des bonnes années
négatives. Ewing qui part des Knicks, c'était aussi, mais Ewing avait fait quand même, Iverson tu sens qu'il y avait quand même encore quelque chose à faire, que t'aurais aimé pour la NBA que les Sixers remontent, peut-être revoir un Iverson Sixers en finale, et puis le truc s'évapore, quoi.
La deuxième question qu'on allait aborder, est-ce que toi, il y a un rebrand, une nouvelle direction artistique d'une franchise qui t'a fait saigner des yeux, qui t'a rendu triste?
Ouais, bah je vais le montrer puisqu'on a l'image. C'est les Raptors qui en fait démarrent avec un dino et une gamme chromatique, enfin un code couleur là, le violet, le dino et tout, qui est incroyable. Qui ensuite, bon, cache un peu le dino, donc comme vous voyez, mais garde le violet. Ça, c'est le maillot de Vince Carter avec lequel il gagne le concours de dunk, notamment. Donc le devant est violet, le derrière est noir. Et le maillot est quand même assez cool. Et puis après, en fait, ils évoluent en Team Canada. Et ils se disent, bah, je joue en noir et rouge. Et encore, le maillot noir, là, est pas si mal, mais il y a un tout rouge aussi que j'aime pas du tout. Ils rajoutent la feuille, là, d'érable au logo. Le dinosaure, il est squeezy, quoi. Il est plus là. Et bah, moi, en fait, qui aimais beaucoup les Raptors, qui voyait, pour être honnête, en fait, ça. Là, c'est personnel, mais tu pars de... Il y avait tout pour moi. Il y avait Vince Carter et T-Mac, qui étaient un peu le remix Pippen Jordan. Mais vraiment, tu vois, dans ma tête, en tout cas, dans mon
esprit,
truc, machin. Bah, quand t'es petit,
oui, bien sûr, je valide.
Tu t'emportes, tu vois, voilà. Et puis, en fait, bah, il n'y a plus le dino, il n'y a plus le violet, il n'y a plus le machin, et ça devient Team Canada avec genre Bargnani, Bosch, Garbage Osa, je ne sais plus quoi. Bah ouais, fini Raptors. Enfin, tu vois, j'ai laissé tomber, quoi. Donc, ça m'a désenchanté mon amour, ce qui était en train de naître pour les Raptors. Bah,
je comprends. Ouais, c'est con. Sur un changement comme ça d'identité,
C'est comme ça. Hein.
Ça puisse faire basculer des goûts, mais ça se comprend.
Mais toi, t'en as un aussi.
Oui, oui. Moi, je me battrais pas, mais c'est vrai que je suis retombé sur cette photo des logos du Jazz, et je trouve que chaque logo est un peu pire que le précédent.
Enfin, c'est une sorte de downfall infini.
Mais déjà au niveau des couleurs, moi j'aimais bien cette couleur là.
Ouais.
Ensuite, je comprends le changement à cette identité avec les montagnes, et surtout ça a donné des maillots que j'aime bien. Mais alors, ce logo ça passe encore, celui-là ok. Mais alors, celui-là avec ce vert jaune, je le trouve hideux. Et les maillots qui vont avec son kata.
Ouais.
Et en fait, ils ont gardé ces couleurs pour revenir à celui de base, mais qui est beaucoup moins beau, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Et tous les maillots
qui bleu marine au lieu du violet un peu cool là de l'époque Malone Stockton.
Les maillots montagne qu'ils font depuis, qui pour rendre hommage, je les trouve tous moins beaux.
Oui.
Il y a aussi d'autres maillots, des oranges, dérivés orange noir.
C'est vrai qu'il y a eu la période, bien sûr, je me rappelle de Rudy dans ce maillot qui ressemble à une grosse bouteille de Mountain Dew.
C'est ça, il y a le jaune aussi qui est dégueu, je trouve. Et maintenant,
avec un peu les pixels, enfin pas les pixels, mais les trucs.
Et maintenant, lui, je le trouve limite mieux que ces deux-là, mais il y a moins d'âme, il y a moins d'identité. C'est tellement loin de ce niveau-là qui était quand même encore. Franchement, tu vas dans des NBA stores maintenant, Tu vas dans des NBA stores, oui, pardon, maintenant il y a des vestes exceptionnelles de cette époque-là que tu as envie de porter du jazz, etc. Enfin, etc. Et maintenant, les jeunes, j'en vois peu avec du merchandising de Utah.
Après, ils avaient la période aussi dans cette modernité, ils avaient sorti le jaune fluo là en plus et tout. Là, ils sont revenus à un truc. La gamme chromatique est pas mal. Les couleurs là, c'est du violet, violet foncé, bleu clair. Je trouve le truc pas mal. Après, moi j'ai toujours du mal, mais c'est bête. Au moins, ils ont arrêté de vouloir fusionner jazz et montagne, ce qui trouvait serait assez absurde. Et ils sont revenus à une esthétique un peu de note de musique stylisée et tout. Mais c'est vrai que c'est, comme tu le dis là, c'est
De
de
mal
mal
en
en pis
pis.
quoi. Ouais.
Oh.
Ah bah, tu vois.
C'est qu'on est d'accord. Est-ce qu'ensuite tu as un joueur qui t'a particulièrement déçu?
Là, je vais aller vite, mais récemment, on va dire, bah, Ja Morant quand même. C'est pas pour remettre une couche et tout, mais j'avoue que moi, j'aimais plutôt bien. Enfin, c'est pas que j'aime plus Ja Morant, mais voilà, quoi, c'est plus pareil. Bradley Beal quand même un peu aussi. Dans l'attitude, notamment à Phoenix. Alors, c'est pas que de sa faute et tout, mais alors que Bradley Beal était vraiment un de mes joueurs préférés à Washington et
Ouais,
tout.
je pense, ouais.
J'adore le jeu de Bradley, hyper beau à avoir joué et tout. Et sinon, pour les anciens noms, Sean Kemp, même si je suis jeune, quand il y a le premier lockout et je sais pas quoi, qui revient, qu'il est à Cleveland, qui revient tout gros là, tu comprends qu'il y a un truc qui a déraillé. C'est pas vraiment de la déception parce que j'étais gamin, mais bah c'est plus le Sean Kemp d'avant. Et sinon, moi, bah c'est T-Mac.
Ouais.
Même si c'est dur d'être déçu par T-Mac parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Et un peu de malchance et tout, je trouve quand même que. Et tu sais que Vince Carter, il est un peu dans le même sac pour moi et tout. Mais
Ah ouais, à ce point-là?
T-Mac
Parce que
encore.
sa fin de carrière à Vince Carter est quand
Sa fin
même.
de carrière est exceptionnelle, mais le Vince Carter franchise player, à Toronto, là, il boude. Après, il est à New Jersey où il est bon, mais les Nets redécollent pas, retournent pas en finale. Mais bref, ouais, T-Mac, parce que quand même. C'est plus. C'est de la déception en fait pour lui même aussi. Je trouve ça dommage qu'il soit dans une catégorie de joueurs là comme il est, alors que c'était, Kobe le disait, c'était un talent supérieur de ouf T-Mac. Et peut-être même le T-Mac un peu plus complet que scoreur. Moi je trouvais que T-Mac, on en revient au Raptor, mais le T-Mac potentiellement ailier très complet, défenseur aussi en début de carrière. Plus que à Orlando, il est seul avec des merdes là et il se met à arroser et ça devient et après Houston et tout, ouais, donc T-Mac. Et toi?
Moi là, j'ai un peu fait un truc bizarre. J'ai écrit draft 2019 de la NBA parce
Ok.
que en fait, je m'étais intéressé comme un fou à cette QV et il y a Zion.
Ouais.
On va même pas en parler. Ja Morant, tu l'as dit. L'équipe de Duke qui m'a hyper, RJ Barrett, ça a jamais été un joueur NBA qui
C'est
m'a
vrai.
transcendé, j'avoue. Cam Reddish.
Ouais,
On l'a disparu limite de cette équipe, limite Trey Jones a fait une meilleure carrière maintenant que Cam Reddish, enfin c'est sûr même. Et même dans le reste, quand tu regardes maintenant les meilleurs joueurs de cette QV, t'as du Garland, là tu sais pas trop ce que ça a donné avec les Clippers, t'as du Tyler Herro, que j'aime bien, mais qui arrive pas à rester très longtemps dans une bonne forme physique. Et en fait, ouais, cette draft, là, je trouve là je cite que des talents, et il n'y en a aucun qui fait une carrière unanime, j'ai envie de dire, en NBA. Et c'est vrai que j'avais adoré cette QV au tout début et au moment de la préparer, etc. Et que là, il n'y a plus un joueur qui m'excite particulièrement dedans.
Ah, je comprends, tu as fait un pack draft
J'ai fait un
2019.
pack. J'ai
Ok.
fait un pack.
On a deux, trois autres petites questions. Peut-être juste en
Dis-moi.
mention. Est-ce que toi, après carrière, des joueurs t'ont déçu? C'est juste pour rebondir un tout petit peu là-dessus, très rapidement. Genre, t'aimais bien le joueur et le consultant, par exemple, pour viser personne. Gilbert Arenas, des trucs comme ça. Moi, je pensais à ça, mais vraiment à balle, quoi, tu vois, très vite.
Ouais, pareil, bah, Paul Pierce dans le même genre. Enfin, je l'ai pas tellement vu jouer, je vais pas
Ok.
mentir. Mais le consultant
Ouais,
me
c'est
saoule.
pas. Il est nul.
Ouais, t'en as un autre que
Bah, moi,
Arenas?
en fait, c'est la relation Pippen-Jordan qui est devenue toxique et horrible. Et t'as un peu l'impression. Alors, bien sûr, je prends des pincettes. Mais que c'est tes deux tontons à toi, quand t'es petit, qui se parlent plus. Enfin, mais j'allais dire presque papa-maman. C'est presque tes parents qui osent plus parler. Et j'aime pas, je te jure, j'aime pas le fait qu'ils soient pas amis. Et à un moment, bon, c'est vraiment glauque pour ceux qui savent, savent, avec l'histoire de. C'est quoi? C'est le fils
Larsa,
de. Ouais, de
ouais, de
l'ex-femme de
Jordan.
Pippen. Bah. Et en même temps, je me faisais la réflexion que ça. Jordan aussi, c'est pas qu'il. Mais Jordan est tombé d'un statut de dieu vivant, pour moi, à. Son après-carrière, ça l'a vachement désacralisé, je trouve. Mais quelque part, ça l'a rendu aussi plus humain, plus attachant et tout. Donc ça va. Mais la relation Pippen-Jordan, ça me fait chier. Vraiment, c'est
Je
un truc que j'aime
comprends.
pas. Et puis, le fait que Rodman soit quand même quelque part aussi débile que fou, quand tu te rends compte en vieillissant, ou en tout cas fait des choix assez techniques, assez douteux.
On pense à
Bon, mais être déçu. Après, est-ce que tu peux vraiment être déçu de Dennis Rodman quand tu sais le parcours de vie qu'il a eu? C'est peut-être toi aussi qui fais. Enfin, j'attendais pas comment dire, de Dennis Rodman, que ce soit Barack Obama ou Grant Hill, tu vois, dans son après-carrière.
Oui,
Voilà.
non, je comprends bien. Une équipe qui a flop alors que tu y croyais à fond.
Bah, je reste dans. C'est marrant, c'est un boule. Les Knicks de Phil Jackson. Moi, ça reste un truc, mais parce que j'étais à New York à ce moment-là aussi.
Ah, ok.
Et en gros, t'as quand même Melo, t'as le transfert de D-Rose. Alors je mélange peut-être un peu tout, peut-être que D-Rose c'est pas avant Phil Jackson, mais il y a l'enchaînement des Knicks où tu reformes D-Rose
De
noir.
2015 à
Ouais.
2018, quoi.
Phil Jackson GM, et c'est n'importe quoi. Derek Fisher coach, Jeff Hornacek, des choix. Et horrible. Horrible, horrible, horrible.
Ouais. Ouais, je me
Voilà.
sens de Jared Jack
Ça m'a
titulaire, de
dénixisé.
Kylo Quinn.
J'étais tout content dans le Madison et tout, mais globalement, et même le méta de l'équipe et tout, oh, c'est dégueulasse.
Ouais, moi très rapidement, mais c'est une équipe en qui je croyais pour aller au titre et qui a jamais montré. Enfin, c'est toute cette génération des Clippers, mais les Clippers 2020,
Ouais.
quand Kawhi arrive, ils sortent d'une saison, pour ceux qui ne se souviennent pas, avec Montrezl Harrell, Lou Williams, Pat Beverley qui est exceptionnel. T'as toujours ces trois joueurs, tu rajoutes Kawhi et Paul
Le
George.
roster est hyper cool.
Ouais, moi je me disais ça va au titre et Kawhi il va devenir exceptionnel parce que ce sera troisième bac, enfin, ouais, troisième bac dans une troisième franchise différente.
Et troisième MVP des finales.
Bon, bah, ça s'est pas passé. Il y a eu le Covid évidemment, mais je pense que même sans le Covid, il partait pas pour dominer forcément la NBA, quoi. Donc,
Non,
ça a été une
non.
petite déception et puis même les années qui ont suivi, quoi.
C'est les Clippers, quoi.
C'est
Et
ça.
non, j'en place une parce que les Nets ça finit mal. Hein. Ça, le KD, Harden, Kyrie, transfert de Ben Simmons et tout,
Ouais.
ça finit vraiment en autre boudin. C'est moche. Et je vais te taquiner, mais moi, c'est pas qu'elle m'a déçu, c'est que je vais avoir ça. Moi, j'y croyais un tout petit peu quand les Boots jouent bien, là. La Lonzo démarre.
Ah
Là.
oui, celle-là. Oh.
Caruso. Je te
Ouais.
jure que les 3-4 mois où ils jouent bien, je regardais des matchs. Moi, j'aimais bien comment ils jouaient. Par contre,
Ouais,
j'aimais
ça
bien
allait
le style
vite, c'était
de.
cool, hein.
L'équipe jouait bien, voilà.
Ouais.
Pour finir, parce qu'on sur ce match Charnes, deux, trois petits trucs. Un joueur, on va dire au début, à la draft, par exemple, où tu l'avais vu prospect, fac, machin et tout. Tu t'es dit, ouais, lui, c'est le futur, je sais pas quoi, c'est le turfu, il va tout casser en NBA, et en fait, non.
Ouais, bah, Josh Jackson.
Ah, pas mal.
Sur cette draft, moi, je
Je
pensais
me
qu'il
rappelle
fallait.
la Alex très hype.
Ouais, non, mais même moi, je pensais qu'il fallait vraiment le drafter devant Tatum, hein, je vais pas mentir. Non, bah,
Elle est
parce qu'à
belle,
l'époque,
elle
il y
est
avait ce
belle,
débat, en fait. Il y avait les
elle est
deux
belle.
premiers, il y avait
C'était les
Fultz
deux
et
meilleurs
Ball.
alliés de la QV, ouais.
Il y avait Fultz et Ball, et tout le monde était d'accord que c'était un et deux à l'époque. Et derrière, c'était
Bah, tu sais que
Tatum ou
Fultz,
Josh.
c'est pas de sa faute, mais
Ouais,
ouais.
c'est ça. Et il y avait vraiment un débat Tatum-Josh Jackson pour ceux qui se souviennent pas. Et franchement, je crois que la plupart des mocks mettaient Josh Jackson devant. Et moi, quand je regardais les highlights, etc., parce que pareil, c'était dans les premières drafts qui m'ont beaucoup intrigué, j'avais beaucoup regardé. Et j'étais fou de Josh Jackson. Et
Ah,
maintenant,
pas
t'en as
mal.
un qui est extraordinaire. Et t'as l'autre qui. Il est pas dans la ligue là. On l'a perdu, hein. Il est plus dans la ligue.
Joe Jackson?
Ouais.
Ah ouais, non, il est plus dans la ligue.
Oh, voilà. Et toi?
Je Tiens, moi, il y a lui, là. Tu te rappelles de lui?
Ouais, je reconnais sa tête, ouais.
Drafté en deux par les Wolves. Et un profil un peu tweener, un peu comme les Michael Beasley, tout entre deux postes, 3 et 4, mais quand même plutôt 4. C'est les Wolves où il y a Kevin Love, Rubio et tout.
Derrick Williams pour les plus
Oui,
jeunes qui
Derrick
l'ont pas.
Williams, on le remet. Et après, en plus, moi, c'est une double dose. C'est-à-dire qu'il y a déjà les Wolves, que j'aimais bien. Parce que c'était la continuité de l'équipe d'Adelman, l'ancien coach des Kings et tout. Il merdouille il fait deux ou trois saisons aux Wolves. Il est encore dans le radar NBA, il a encore une place. Il signe aux Kings. Et moi, je me dis, je me refais. En fait, il m'a eu deux fois. C'est-à-dire qu'il m'a eu alors qu'il n'était pas dans mon équipe, mais aux Wolves et tout. Et par contre, je vous invite à aller voir. Il doit avoir un top 10 ou top 20 ou top 30 même de ses dunks en match. Par contre, quand il coupait et qu'il était bien servi, des tomards.
Ah, c'est un monstre.
Oh là là là, par
Sur
contre,
ça.
mais vraiment d'une violence. Bref, et aux Kings, je me dis, ah bah quand même, sur le papier avec Boogie à côté, n'importe quoi. Un QI basket, je sais pas. Et pourtant, en Euroleague, après, il s'est réinventé.
Avec le Fener notamment, je
Ouais,
crois.
et franchement, bravo à lui. Mais je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. J'aurais pu citer Kenny Collegestein, par exemple, aussi et tout. Mais j'ai pensé à toi, Robin, parce que en notant comme ça quelques noms en vrac, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un club des Williams. Parce
Ah.
que dans les mecs qui m'ont déçu après des débuts, bah, Williams étant un patronyme quand même très commun, mais j'ai, sans faire exprès, il y a Derrick Williams, mais j'ai noté aussi Michael Carter Williams,
Ouais.
que je compte dans le club des Williams, et l'ami Patrick Williams, évidemment. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc. Et sinon, bah, t'as Eric Evans.
Ouais, sa première saison est à 20 points de moyenne.
Mais sa première saison, elle est exceptionnelle. Puis style de jeu de ouf. Vraiment, le
Clairement.
combo guard intelligent, physique, qui convoque plein de trucs que t'aimes dans le basket et tout, un spin move dévastateur, des voilà. Et j'en place une là maintenant dans l'actualité. Je commence à voir. Paolo Banchero, fais gaffe à toi.
Ah, tu descends du bateau là,
Je descends
complètement.
pas du bateau. Je suis toujours dedans. Mais j'avoue que je vois. Il y a un truc. J'attends que ça change de coach. Puis voilà, on verra. Mais je voulais juste dire Paolo Banchero.
Ouais, bah il prend cher en ce moment le pauvre. Moi je vais
Oui,
attendre un petit peu,
oui, oui.
mais c'est vrai qu'il est dans l'actualité, c'est pas forcément top. Ouais, dans la catégorie après, je comprends que t'avais pas forcément la vision de ce dont je voulais parler, mais du coup, je voulais demander à vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans ce contexte de March Madness, de regarder un grand moment de NBA, un moment un petit peu triste, un petit peu mélancolique? Et je vous donne un exemple, du coup, c'est que moi, le gros shoot de Lillard qui
Le premier
termine
ou
à
le deuxième?
OKC.
Ouais, ok, le deuxième.
Ouais, celui qui termine
Le
OKC.
bad shot.
Ouais, moi je l'ai. Vraiment. Je suis à l'hôpital parce que je viens de me faire opérer des croisés.
Ah oui.
Je me fais réveiller à 5h du matin par les infirmières, etc. Comme ça arrive souvent à l'hôpital.
Ouais.
J'allume la télé, je tombe, il reste 2 minutes à jouer
Ouais.
et je tombe sur ce moment. Et c'était vraiment
Incroyable.
le lendemain de mon opération des croisés, je suis
Ah
dans le
ouais.
lit, je suis à 2 doigts de tomber.
Ah,
Genre
pas
tellement
mal.
j'étais choqué, etc.
Ah
Et du coup, c'est
ouais.
pas forcément triste, mais tu vois, j'étais dans un mood.
Bah, t'es quand même. Tu sors d'une opération des croisés,
Ouais,
quoi.
ça, tu te dis, c'est bon, je suis parti pour 9 mois. Et boum, j'allume la télé à
Ok.
5h du TAM, je tombe pile sur cette action. C'était
Ah, pas
assez
mal.
exceptionnel.
Pas
Donc voilà,
mal.
est-ce que vous avez des anecdotes comme ça, amis de la communauté, qui ont rendu un match ou une action très spéciale pour vous, pour d'autres raisons? Et la toute dernière question, alors, on n'a jamais réussi à mettre un nom dessus sur cette catégorie, mais peut-être ton
Ah
exemple va mieux
oui,
l'expliquer.
ouais, bon, je vais aller vite là-dessus.
Ouais,
Non,
on va aller
mais
vite.
en gros, bah, c'est un peu normal en bas. Au moment du décès de Kobe, je me rends compte en fait, comment dire que, bah, moi j'ai toujours eu vachement de mal avec Kobe parce qu'il fait deux trucs qui me crispent tout de suite. C'est à la fois j'annonce, je suis le remix de Jordan, je vais aller le chercher. Et moi, Michael Jordan, j'ai un rapport quasi christique à Michael Jordan. Et en plus, c'est quand même le mec qui fait souffrir les Kings, les Kings, les Kings, et éventuellement même les Spurs, que j'aime quand même assez bien, tu vois, à choisir. La deuxième partie de carrière de Kobe, je sais que pas mal de monde a évolué. Notamment autour de moi, je vois des potes et je comprends le Kobe vétéran et tout, il a la classe. Mais moi, j'étais quand même encore un tout petit peu.
T'as
Et
presque
donc,
le regret de pas l'aimer, c'est ça
bah,
que
en
on veut
fait, c'est
dire.
que je me rends compte comment. En fait, c'est violent pour moi du coup le décès de Kobe parce que je me prends tout le truc en mode, je suis censé pas l'aimer. Puis en fait, ça m'a pris d'une émotion assez terrible, honnêtement. Hein, c'était violent. On l'apprend comme ça, c'est un dimanche fin de
Différent.
journée et tout. Et du coup, je le plaçais un peu comme ça. Je sais pas si d'autres personnes ça vous inspire, mais émotionnellement, c'était assez compliqué même aussi de se dire parce que d'un coup, tout ça est tellement ridicule. Alors que c'était quelque chose qui m'a construit en tant qu'adolescent, quelle équipe j'aime bien, quel machin, donc les antagonistes, les trucs Kobe, machin, le nouveau Jordan, nanini. Et tu te rends compte que face à bah, la tragédie de la mort, de l'accident d'hélico, qui plus est que sa fille, les trucs, je me sentais con en fait, Robin, comme jamais quoi, tu vois. Tu comprends ce que je, c'est pour ça que j'ai du mal à, mais je me sentais vraiment con quoi.
Ouais, non, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et ce qui est bien pour conclure, entre guillemets,
Oui.
ce gros débat, c'est qu'on va vous fournir
Rebondir, ouais.
des œuvres
Ah,
pour accompagner ces
un peu
moments
de culture.
mélancoliques.
Bah, la tristesse, c'est quand même un truc qui a inspiré pas mal de. Alors, ça va des poètes maudits, évidemment, voilà, mais que ce soit dans tous les domaines artistiques, culturels et tout, c'est quand même un sentiment assez fréquent, la tristesse.
C'est ça. C'est ça, c'est pas qu'on veut forcément vous donner des recommandations, mais c'est peut-être des trucs qui peuvent toucher certains d'entre vous pour accompagner cette
Ouais.
marche sadness en NBA. Est-ce que tu veux que je commence?
Ouais, vas-y.
Moi, je me suis concentré seulement sur l'aspect musical et même j'ai trouvé ça tellement large que je suis parti. C'est en grande majorité du rap français parce qu'on a déjà parlé
D'accord.
dans cette émission.
Oui.
J'aurais une ou deux autres mentions très rapides, mais voilà. Si je je sais pas exactement où on va. Est-ce que tu connais Rue du Paradis de Cynique?
Non, je connais des morceaux. Bah, ou peut-être que oui, mais Cynique, je connais pas assez pour connaître les titres.
Ouais, bah, il parle du. Ça va mettre une ambiance. Du suicide de son frère. Et en fait, ce premier paragraphe, il lit un peu la lettre qu'a laissée son frère, plus
Ouais,
ou moins.
dur quoi.
Et après, il parle à sa place. Deuxième paragraphe, enfin, à la place de Cynique, quoi. Et troisième
Ouais.
paragraphe, c'est son frère qui lui répond du paradis. Et
Ok.
c'est vrai que ça s'est. Je vous ai dit, ça va mettre une ambiance de merde. Mais elle est
Non, mais
magnifique, elle est bien
intéressant.
tournée. Et puis,
Ah, ok. Bah, j'irai écouter. Non, mais j'irai écouter.
Moi
Ouais.
qui ai 4 frères et sœurs et qui,
Ouais,
pour
donc
qui
ça
la
t'a fait chialer
fraternité,
comme un.
ah,
Ouais,
ça me touche
ouais.
plein cœur. Il y a pas longtemps, j'étais au concert de This Is Olympia et
Bah oui,
il
non,
a fait
mais.
Qu'ils ont de la chance,
Ouais.
presque a cappella comme ça,
Ouais.
et ça a fait me tirer des larmes au milieu du concert. Donc je la cite, elle est connue, donc j'enchaîne. Pareil, on reste dans le décès. Fleur d'automne de Dossé,
Sais pas. Je vois qui est Dossé, mais.
il parle du décès de sa mère et elle est très bien écrite. C'est une
Ok.
de celles que je trouve très bien écrite là-dedans. Ben PLG, c'est un de mes
Ouais.
rappeurs préférés du moment. J'ai choisi Quand les lumières s'éteignent, mais lui, justement, pareil, par rapport à la famille, il a une honnêteté, il a une vie familiale compliquée pour plein de raisons, et il l'écrit très bien avec une
C'est
pure
vrai qu'il
honnêteté.
écrit vraiment très bien, mais
C'est ça.
il a pas fait des. C'est un mec qui va faire des romans, lui, ou un truc comme ça, non?
Je sais pas, mais non, il l'a pas encore
Ah.
fait, en tout cas, pour
Ouais.
ma première question.
Ok.
Et rapidement, comme une bouteille comme une bouteille à la mer de la psyché de la rime, ancienne moi qui me marque par la rage qu'il met dedans, il y a du désespoir. André de Gizmo, Malik Almot de Népal qui est presque. Parce
Ouais,
que Malik
je
Almot
pensais à
c'est.
Népal sur beaucoup de morceaux. Il y a une. Puis c'est bizarre Népal en fait parce que t'as l'impression qu'il y avait des indices dans son œuvre
Bah c'est ça, Malik
de sa
Almot
dépression.
c'est
Ouais,
littéralement l'ange de la
c'est.
mort. Et il dit je t'aurais presque attendu et au final bah, il s'est suicidé quelques années après.
J'aime beaucoup encore écouter Népal, mais je sais que ça va me plomber ou que ça va tourner un peu en fond dans ma tête pendant les heures qui suivent l'écoute, quoi, tu vois.
Et enfin la nuit de SCH et pour les hors rap, est-ce que t'as l'anecdote derrière le clip de Monsters de James Blunt? En fait, il parle pareil. C'est écrit, c'est par rapport à son père qui
Ouais.
avait une insuffisance rénale et
Ouais.
qui, s'il se faisait pas transplant, s'il avait pas une greffe
Greffé.
rapidement, il allait
T'es condamné,
décéder.
ouais.
Et il écrit cette chanson pile à ce moment-là où il pense que son père va décéder. Et en fait, la première fois qu'il lui fait écouter, c'est pendant qu'il tourne le clip. Et tu sens que c'est deux mecs qui ont fait l'armée, qui sont fiers, etc. Mais il peut pas s'empêcher
Putain, c'est
de pas
incroyable, je
craquer.
savais
Et le
pas
clip,
ça.
il prend au trip, il prend au
Trip,
cœur. Et en
ouais.
plus, elle est magnifiquement écrite cette chanson. Et en fait, il s'avère que l'histoire finit plutôt bien parce que son père a eu une greffe et est encore vivant aujourd'hui.
Ah,
Donc
bah.
l'histoire finit bien, mais
Tant
cette
mieux.
chanson, elle est sublime. Elle a été reprise par Yam Tongi aussi, incroyable pour ceux qui
Ouais.
veulent aller voir. Et la dernière, Old and Wise, de Alan Parsons Project, qui est plus sur la mélancolie, sur de l'amitié, etc. Et qui, moi, était la chanson préférée de mon père, donc moi, enfin,
Ah
qui est
oui,
la
ok.
chanson préférée de mon père,
Ouais.
et qui m'a toujours marqué, et qui est exceptionnelle, et notamment le solo à la fin musical. Voilà, c'est mes
Ok.
recommandations.
Non, bah moi
De
juste
musique.
pour en musique, je vais en rajouter une ou deux, mais très bien, puis on va pouvoir après enchaîner. Mais moi je pense toujours, tu l'as vu, je sais pas si t'as vu Donnie Darko,
Non.
mais il y a une chanson qui s'appelle Mad World qui fait un peu office de générique de Donnie Darko, de notamment la version, c'est une chanson qui est un peu standard, qui est prise, interprétée par plusieurs personnes, mais une version c'est Carrie Jules, je pense. C'est, alors tu sais, c'est vraiment le truc, bah d'ailleurs un peu presque que tu retrouves parfois dans le rap, mais le piano. Et la voix un peu triste, et dès le début, t'es pas bien. Et voilà. Et dans le même genre, il y a quand même ce que je trouve au-dessus de tout dans le genre chanson triste, pour moi hein, en tout cas. C'est vraiment Simon Garfunkel. Sound
Sound
of
of
Silence.
Silence.
Ah, c'est pas possible. C'est tellement triste que c'en est beau, c'est tellement beau que c'en est triste. Et je trouve que c'est vraiment à part dans ce. Dans ce... Il y en a plein hein, des chansons, mais je trouve qu'elle est, elle, celle-là, elle a un truc.
Est-ce que t'as déjà vu la reprise d'un chanteur de métal?
Ouais, mais il y
Putain,
en a
bah,
plein. Non, mais
elle
c'est
est
la plus belle.
extraordinaire.
Tu te demandes, c'est pas la. Parce que t'as l'impression. Ouais. Il y a un côté plus belle chanson triste du monde. Je sais pas comment dire ça, comment l'exprimer. Faudrait... La saudade, tu vois, ce sentiment, voilà. Après, on pourrait faire des heures là-dessus. Si vous avez des recos, profitez-en de. Mais c'est vrai qu'il y a. Il y a notamment en allemand, mais je l'ai plus, il y a un mot pour ça. C'est le bonheur à écouter des choses tristes. Ou à voir des choses tristes. Ce qu'on appelle un peu la mélancolie en français, mais voilà.
Quand tu regardes mes playlists, je fais partie de l'équipe.
Ok, t'es dans cette team.
Et toi, du coup, on sort un peu de la musique?
Bah après, je voulais juste pour avoir 2-3 recos en dehors avant de. Mais j'ai remarqué quand on parlait de ça, ça m'a inspiré, que bon, il y a plein de films qui m'ont rendu triste et tout, mais que c'est encore plus touchant pour moi la tristesse dans des univers fictifs. Je pense notamment au Pixar, c'est bête, et auquel tu t'attends pas forcément. Mais moi, certaines de mes plus grosses chialades en salle, je pleure assez facilement, Robin. Mais alors, les Pixar, tu sais, quand il y a dans Là-haut, par exemple, où il y a une sorte de court-métrage dans le film sur la vie des deux époux et leur. Mais là, le truc commence, je commence à pleurer et je pleure les 10 minutes. Et il y a aussi le sacrifice de Big Bong pour ceux qui savent dans Vice Versa. Je spoil le truc, mais en gros, le doudou. Enfin, tout ça est dans l'inconscient avec les émotions. Mais le doudou, bref, se sacrifie pour qu'elle puisse aller plus loin. Ah, j'étais pas bien. Je te jure.
Ah non, je te
Et j'ai
crois.
remarqué aussi que le tombeau des Lucioles, par exemple, un manga, est le truc que je trouve le plus triste du monde. Le fait que. Peut-être que le réel, qu'on filme vraiment des personnages réels, tu peux penser à Philadelphie avec Tom Hanks, des films comme ça, tu vois. Même Forrest Gump, moi,
Bien
ça me fait
sûr.
chialer. Enfin, voilà. Mais alors, quand il n'y a pas cette proximité du réel et que tu vas dans un univers plus
Parallèle,
animé,
ouais.
plus. Ouais, puis dessiné et tout, je crois que ça me touche presque encore plus parce que peut-être que tu t'identifies encore plus facilement parce que tu n'as pas le rapport à un autre corps humain que le tien qui est triste. Et pour finir, je voulais en parler un peu plus longuement, mais là, j'aurais pas le temps. Il y a un jeu notamment comme ça qui m'a toujours crispé, que je trouve le truc le plus triste et mélancolique au monde. Si vous voulez, on en parlera une autre fois et tout, mais c'est un Zelda qui s'appelle Majora's Mask et qui est en gros sur le fait que t'as 72 heures en boucle pour sauver le monde, comme dans Mélancolia, un peu d'une lune qui va tomber et en fait, derrière cette lune, au visage humain qui est terrifiante et qui va bah, engloutir toute l'humanité. Et toi, en fait, c'est une boucle de jeu et à chaque fois, t'en apprends un peu plus, donc tu avances comme ça à chaque fois pour aller jusqu'à l'objectif final qui est de faire en sorte que Skool Kid, qui est le petit gamin qu'on voit, je sais pas si vous voyez le masque avec une espèce de tête d'avocat et les mèches là, si tu peux nous montrer, c'est lui. En plus, c'est triste, c'est un gamin qui est désespéré parce qu'il s'est senti abandonné, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et j'arrivais pas, j'ai pu y jouer que beaucoup plus tard. C'était impossible pour moi, c'était cauchemardesque, anxiogène, mais aussi quand j'arrivais à dépasser, à jouer un petit peu, en fait, pour aller vite, t'as un monde ouvert, enfin, t'as un monde où les gens vivent leur vie. Mais toi, tu sais qu'ils vont mourir et eux, ils le savent pas. Et t'as notamment un couple où les deux protagonistes sont séparés, tu dois faire en sorte qu'ils se retrouvent et tout. Et je te jure, c'était beaucoup trop important pour moi pour pouvoir assumer que ce soit un jeu vidéo, quoi. Ouais,
C'est fort
j'avais.
émotionnellement chaque
Majora's
intrigue.
Mask, ça doit être du 99-2000, je sais plus trop, mais donc je suis en milieu d'adolescence, tu vois, et tout. Compliqué. Voilà.
Voilà, si vous voulez chialer, on est parti.
Ou si vous voulez parler de faire votre classement des Zelda, hein, moi je suis là.
Exactement. Non, c'est vrai qu'on est parti à l'inverse de ce sur quoi on aurait pu nous attendre, je pense, au niveau du débat. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, c'est un peu triste la NBA en ce moment. Bah tiens, parlons de la tristesse. Pourquoi
ouais,
pas.
Puis c'était l'occasion de voilà, de ces petites questions et tout. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres réponses, les transferts qui vous ont déçu, tout ça et tout. Ou peut-être une finale qui vous a une défaite particulièrement. Mais souvent, c'est nos équipes de cœur. C'est pour ça qu'on voulait pas trop aller là-dedans et plus rentrer par du branding, des trades, des choses comme ça.
Exactement. Quelque chose qui est beaucoup moins triste, c'est la belle semaine des Français.
Ah bah non, pas du tout, Robin. Il pleut partout, en fait. C'est la merde. On continue dans la tristesse. Et il pleut partout. Non, pas du tout, puisque le premier Français à l'honneur, c'est l'inverse même de la sadness.
Ah,
là, on est dans la licorness, happiness.
La madness, finalement.
Ouais,
Mohamed, tu as raison. Diabara. Onyx, qui s'est devenu la coqueluche du Madison Square Garden.
C'est le terme.
J'ai presque l'impression que c'est devenu la. Enfin, c'est peut-être mes réseaux sociaux qui sont faits comme ça, mais la coqueluche de la NBA. Cette semaine, ça parlait de lui partout. Parce qu'il a fait aussi, notamment, contre les Spurs, un match énorme en antenne nationale. Même si c'était pas le plus adroit, mais il tente 13 tirs à 3 points. Et t'as tout le monde qui dit, mais hésite pas, prends-les, etc. Le match juste avant contre les Bucks, il y a plein d'actions où tu vois des flashs magnifiques. Et vraiment, bah, c'est la belle histoire, quoi. Drafté en 51, qui devient. Limite un des premiers Français à.
Il s'est imposé à une vitesse comme le premier ailier remplaçant en fait de la rotation des Knicks. Et t'as l'impression qu'il a verrouillé une place dans tout le plan de jeu, qu'il sera là en playoff, qu'il est au rendez-vous et que surtout il est à la hauteur du truc.
Ouais, c'est ça. Il y a peu de Français qui ont réussi au Knicks. T'as Evan Fournier pendant un certain temps, mais avec quand même une espèce de malédiction autour de ça. Donc que ce soit un pick 51 de Cholet.
Comme son nom l'indique, comme son numéro l'indique.
Exactement. Et qui était même pas sur les radars de la plupart des scouts NBA avant sa draft qui parvient et de fort belle manière. Maintenant, t'as même les fans des Knicks qui sont comme ça de pas pouvoir le re-signer parce que c'est un second tour de draft. Et il régale et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et franchement, il a presque gagné.
Il n'y a pas de raison, hein, là, ça a l'air d'être parti pour. Franchement.
On dirait qu'il a gagné sa place pour la rotation, même en playoff. Quoi. Et
c'est joueur complet, il est hyper utile. Enfin bref, c'est...
Bravo, Mo.
Bravo.
Ça va aussi très bien pour notre ami de l'autre côté du bridge. Nolan Traoré.
C'est vrai, on passe la rive.
Oui, bon, on en a déjà parlé une ou deux fois, mais c'est de plus en plus fort. Là, il a été nommé pour le titre de rookie du mois à l'Est.
Ouais.
C'est aussi pour ça qu'on en parle. 13 points contre les Spurs, 17 contre les Cavs, 14 contre le Heat, donc ça gagne en régularité. C'est limite le porteur de balle numéro 1 de ses nets, en fait.
En tout cas, c'est le poste, on a l'impression qu'il confirme le fait que le poste est pour lui et qu'il est à la hauteur. Et il joue quand il. Bon, il y a parfois des. C'est normal, il est jeune, des petits problèmes encore, des réglages, d'adresse.
Oui, bien sûr.
Mais il y a une sorte de vrai meneur de jeu dans sa façon de jouer qui est bluffante pour un mec aussi jeune de driver une équipe NBA sur une séquence, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, comme ça, très correctement, avec une vista. C'est impressionnant à voir, franchement.
Je crois qu'il y a 9 passes décisives, mais je pense sincèrement que ça serait sa moyenne si ses coéquipiers parfois étaient un peu plus adroits. Parce que vraiment, il y a de la distribution. Ouais. Non, c'est propre. Il y a encore pas mal de pertes de balles. Et c'est normal.
Non, mais il y a.
De français, mais c'est très bien.
Enflamme peut-être un peu, mais il fait penser. Il y a du Tony Parker pour la vitesse.
Oui.
Complètement folle qui rappelle Tony Jeune. Et il y a une vista un peu Haliburtonesque, tu vois. Il y a un peu le meilleur des deux mondes là-dessus. Mais vraiment, sur le papier, quand tu vois. Tu te dis, les nets sont. Ça peut être un meneur vraiment d'impact en NBA, il a tout pour en tout cas.
Et vraiment, on aurait pu aussi parler de Ryan Rupert qui a très bien réussi son 10 days contract chez les Grizzlies ou de Gershon qui fait de belles performances avec les Bulls, mais on peut pas parler que des choses magnifiques. C'est pas contre Nicolas Batum.
Non, pas du tout.
On va continuer comme ça. C'est justement presque l'inverse, Simon.
Oui, c'est le côté en fait. Ben, normalement, Nico prend sa retraite en fait. On va le faire comme ça à la fin de saison.
C'est ce qu'il avait annoncé. Je sais pas si
on va voir
vraiment...
s'il change encore. Ouais,
c'est
on
possible,
sait pas trop
non,
en fait.
Possible.
Mais on se dit, dans le doute, c'est un peu les derniers matchs de Batum et c'est un peu sous le radar parce que les Clippers finalement ne sont plus. Enfin, on va voir. Garland est revenu, ils sont quand même encore dans le play-in et tout. Mais si ça se trouve, ils vont pas faire les playoffs. C'est quand même. Là, ça paraît le plus probable. Nico, ben, il sort du banc, il fait ses matchs, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'on s'est dit avec Robin, il y a un certain anonymat autour de la fin de carrière de Batum. Alors que bon, bah, et ça nous a fait penser à le mettre un peu sous ses petites images, quoi.
C'est ça, pour le voir un peu plus. Et puis moi, j'ai vu passer une interview chez Basket USA où il décrit justement cette saison comme atypique, l'impression d'avoir vécu 5 saisons en une.
Ouais.
C'est des termes qui sont pas méchants ou mauvais. Il a pas dit que c'est horrible, mais on aurait aimé un truc un peu pour une telle légende, un peu angélique, d'une équipe qui se bat. pour aller chercher très haut comme c'était le plan au moment de re-signer
Écoute,
chez les
peut-être
Clippers,
qu'il
quoi.
mettra, peut-être qu'il prendra feu à 3 points dans le play-in et qu'il y aura une sorte de moment Batum avant pour finir en beauté, quoi.
Il l'a déjà fait, je me souviens, avec les Sixers,
oui.
Il l'avait fait.
Ah, dans les matchs décisifs, il sera là.
On espère le voir à ce niveau-là avant la fin de carrière. Et en tout cas, on regardera ces derniers matchs avec beaucoup de plaisir et peut-être quelques musiques tristes dans les oreilles.
Allez.
L'instant hot take.
On conclut, pour conclure. Robert, avec les petites hot takes.
Alors, c'est peut-être ma meilleure hot take de la saison.
C'est ouais, bah avec l'All-Star, quoi.
Ouais, oui, bon. J'avais annoncé, du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission de la semaine dernière, qu'on reverrait Tatum sur les parquets soit mercredi, soit vendredi. Mercredi, il était en game time decision, il n'a pas joué, mais là, tout le monde l'annonce ce soir contre les Mavs. Au moment où on tourne, c'est pas officiel, mais c'est attendu qu'il fasse ses débuts.
Ah, moi, j'ai envie, en plus, j'ai envie de voir ça.
C'est ça. Donc, là, j'ai été bon. Ouais. Toi, Kawhi Leonard, la surprise générale n'a pas été
Ouais,
coupé.
Mais c'est une tech un peu extensible. Je peux check.
Ouais.
Je la check jusqu'à la prochaine
semaine. Si elle passe à un moment...
ouais, tu sais, c'est avoir raison trop tôt.
Je comprends.
On va dire comme ça. On en reparlera de Kawhi.
Moi, ma
tech,
elle est rapide, donc je vais la faire comme ça. Ça concerne notre ami Maxime Reynaud.
Ah.
Cette semaine, les Kings jouent les Pacers, les Hornets et les Bulls. Donc moi, j'annonce un beau carré rail et du coup même un double-double à plus de 30 points. Genre ce genre de perf. Parce qu'il a déjà fait 29-11. Là, je pense qu'il tape son carré rail et je pense qu'il fait un match où on se fait « Waouh !» Je pense qu'il y a un 30-13 qui tombe, un truc comme ça.
Est-ce que je vais lui dire de ne pas le faire juste pour pas que tu gagnes ta hot take? Arrête-toi à 29.
Non, voyons-lui cet extrait, motivons-le. Défonce-moi les Pacers ou les Bulls.
Tu m'as fait peur, Robin.
Pourquoi donc j'ai fait
la Parce que tu évoques ce Kings Bulls.
Oh.
Ah oui. Je me suis dit, mince, on va aller sur le même truc. Et bon, t'es allé sur Maxime. Il y a Kings Bulls cette semaine, si je me trompe pas.
Ouais.
Lundi, je crois.
Je crois que c'est ça, ouais.
Lundi 9, Chicago, 2h du mat.
Ok.
Alors je me suis dit, est-ce qu'on se fait ensemble à 2 du mat et tout lundi? Wow, compliqué. Mais je me suis dit, vu que c'est. On tank tous les deux. Toi, t'es Bulls tank. Oui.
Bah, on vient de battre les Suns.
Non, mais faut tanker. Ben,
oui. Oui, oui.
Bon, nous. Même si Russell Westbrook là s'est énervé contre les journalistes à Sacramento.
Ou tanker.
C'est pas le sujet. On tanke. Les Bulls aussi. Quand on tanke, ça veut dire qu'en fait, celui qui perd gagne le match. Celui qui perd le match gagne finalement.
Oui,
oui, oui. Vous
me
comprenez.
Il
faut perdre. C'est un match à la con, quoi, en fait.
Oui.
Ce Kings Bulls, c'est celui qui perd a gagné. À partir de ce principe, si les Bulls gagnent, je considère que tu as perdu.
Ouais.
Si les Kings gagnent, je considère que c'est moi qui ai perdu.
D'accord.
Et je nous donne un gage qui est le même pour nous deux.
Ok.
Si les Bulls gagnent, Robin, l'image de la semaine prochaine, tu dois la dessiner, tu te démerdes. En fait, l'image de la semaine, selon ce que c'est, tu fais un rébus, une charade, un dessin, de la gouache, de la peinture, mais on montre à l'écran ton œuvre.
C'est très bon.
Et pour que les gens comprennent, c'est quoi l'image de la semaine. Donc là, comme on a eu là, c'était la grossette à Jokic. Je sais plus ce qu'on a eu d'autre comme image de la semaine. Tu te débrouilles. Et si les Kings gagnent, c'est moi qui réalise quelque chose, un dessin, un rébus, charade, pour que les gens aient l'image de la semaine.
Je pense que je t'en ai jamais parlé, mais moi je suis dyspraxique, mais c'est au niveau du dessin, c'est une calamité. Au point où j'ai une histoire. Quand j'avais 8 ans, en primaire, on devait dessiner, les soldats indiens un peu à genoux presque, avec une lance comme ça.
Je pense, je vois, ouais.
T'as l'idée.
Ouais.
Et ma maîtresse m'avait rendu le dessin en me demandant pourquoi j'avais dessiné un hibou. Et c'est une histoire vraie. Pour me dire le niveau du dessinateur.
Robin, je tiens aussi à dire, tu emploies un mot que je ne connais pas.
D'accord.
Dyspraxique, enfin je suis pas sûr.
Dyspraxique.
Je suis pas sûr.
Oui, bah vous ferez vos recherches, on va pas faire 15 minutes dessus.
Mais ça te va. Alors c'est pour ça que en fait,
ah oui, ça me va,
vous
ça
voyez, Robin n'était pas au courant de
non,
ce
pas du tout.
Hot tech gage. Et je me suis dit, si ça se trouve, t'es pas à l'aise avec le dessin ou t'es pas. C'est pour ça que j'introduisais rébus, charade. Tu vois là, par exemple, t'aurais pu faire deviner en charade ou en rébus la grosse tête à Jokic avec Lou Dort, tu vois, tu te débrouilles.
Ok. Non, ça me va très bien. Faisons ça.
Et évidemment, tu me mets pas au courant de l'image de la semaine, mais tu le dessines, tu me montres et je devrais deviner, ou moi, parce que je pars du fait que les Bulls vont gagner et que tu es dans la merde. Ah, vous gagnez contre les Suns, vous n'allez pas perdre contre les Kings quand même.
C'est chez qui? C'est chez nous en plus, je crois.
Ouais, c'est à Chicago.
Ouais, merde.
Non, je me suis mis bien.
Il m'a mis sur le train comme ça.
Mais si ça se trouve, on va gagner avec un 30-30 de Maxime Reynaud, tu vois.
Ouais, bah ouais, bah putain, je vais vraiment lui envoyer
la
séquence.
Est-ce que c'est validé?
Est-ce
que vous conseillez? Donc la semaine prochaine, l'image de la semaine, ce sera une œuvre, on se débrouille.
À grand terme.
Voilà.
Ok, ça me va parfaitement. Et bah, j'imagine que ça donne hâte à tout le monde d'être la semaine prochaine, à nous aussi, pour retourner cette émission qu'on aime tant. Merci à tous de nous avoir encore suivis et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une œuvre dont même Picasso nous demanderait
la... Hop.
J'arrive pas à finir cette phrase alors qu'on va finir cette émission.